France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Alors c'est parti, des classes aussi normales que possible. J'imagine que les professeurs qui ont fait leur rentrée ce matin ont beaucoup discuté des questions qui restent en suspens malgré les assurances qu'a tenté de donner ce matin ici même sur France Inter le ministre de l'Éducation nationale. Alors quand même, on va pas se lamenter. Dire adieu aux jauges, au travail à distance, aux cours devant un écran, c'est bien. Mais il reste les protocoles. En l'espèce, le protocole de niveau 2 sur 4 niveaux de protocole, ce qui change un petit peu les règles selon que votre enfant est en primaire ou en secondaire, selon son âge, son statut vaccinal, le type de sortie scolaire par exemple, qui peuvent être organisées. Il reste aussi quelques ambiguïtés. Nous allons essayer de lever en cas de cas positif dans une classe. Nous allons essayer ensemble la foire aux questions. Alors allez-y, qui pourra vous rassurer que vous soyez prof ou élève? Est-ce que le pass sanitaire est indispensable pour certaines activités? Et si oui, lesquels? Qui portent un masque? Où en sommes-nous des tests salivaires que le ministre a encore vanté ce matin, mais qui semble très long à arriver, qui est qu'à contact dans une classe des vaccinés ou des non-vaccinés, puisqu'il y aura possibilité de se faire vacciner son enfant à l'école? Comment ça va se passer? Comment ça va marcher à la cantine aussi? On sait que certaines écoles sont équipées de capteurs de CO2 ou de purificateurs d'air. Que faut-il en penser? Et puis, qu'est-ce qui se passe surtout en cas de flambée, puisque c'est ce que craignent certains épidémiologistes? Est-ce qu'on passe en rouge, on change de protocole probablement, et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on y est prêt? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus et bonsoir.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Joël, c'est vous le premier. Bonsoir Joël et bienvenue.
Bonsoir à vous et à vos invités.
Bonsoir Joël, allez-y.
Eh bien écoutez, j'ai une question très simple. Ma petite fille de 10 ans et demi rentre en 6e. Donc, passage de... du CM2 pardon, à la 6e, toujours délicat. Mm-hmm. Et s'il y a un cas contact dans sa classe, comme elle n'a pas de passe sanitaire, elle va être punie et renvoyée à la maison, premièrement. Mm-hmm. Secondement, oublions ce cas particulier, mais qui est quand même très important, s'il y a un cas contact et que l'enseignant est toujours présent et s'occupe des enfants qui peuvent rester en classe, comment va-t-il pouvoir en même temps s'occuper des enfants qui sont retournés à la maison?
Merci beaucoup Joël pour cette entrée en matière. Il y en a beaucoup des questions autour des cas contacts éventuels dans les classes. Merci beaucoup pour répondre à votre question Joël et pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Guylaine David est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du SNU IPPFSU, syndicat du premier degré. Et bonsoir Didier Georges.
Bonsoir.
Vous êtes chef d'établissement, secrétaire national du syndicat des chefs d'établissement. C'est avec vous le chef d'établissement que je vais commencer pour essayer de répondre à la question de Joël. D'abord, voyez le terme qu'a employé Joël, et je trouve ça intéressant que ce soit perçu comme ça par les gens, c'est pas anodin. S'il y a un cas contact, ma petite fille est punie et va rentrer chez elle.
Oui, alors c'est pas véritablement une punition au sens juridique du terme, si vous voulez, mais je peux comprendre le sentiment de ce parent d'élève. Parce qu'au-delà de 12 ans, le protocole va évoluer d'une manière différente, mais en l'occurrence, là, son enfant ne peut pas être vacciné. Donc si elle ne peut pas être vaccinée, elle est concernée par... Alors moi, je ne dis pas une mesure d'éviction, je dis une mesure de protection, qui est de mettre son enfant à l'abri pendant 7 jours pour être sûr qu'il ne va pas alors transmettre et développer peut-être la maladie.
Cela dit, techniquement, toute la classe s'en va, puisque, en gros, toute la classe a moins de 10 ans, logiquement, quand on est en 6e. Donc
alors, sur
elle n'est pas toute seule à être punie, la petite.
Vous avez raison, sur les 6e, c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire un cas positif et toute la classe sera mise en mesure de protection à distance. Ce qui, par ailleurs, peut-être même simplifier l'enseignement à distance, puisqu'il n'y aura pas cette forme de mixité entre les élèves qui seraient présents en classe et qui restent, eux, et ceux qui sont mis chez eux, à la maison, pour être protégés.
C'était la suite de la question de Joël. Quand, si on quitte la 6e, mais qu'on va, disons, en 4e, où là, ils ont plus de 12 ans, donc potentiellement, il peut y avoir des vaccinés et des non-vaccinés, si une partie de la classe doit partir, 1, 2, 3 élèves, je ne sais pas, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, comment ça va se passer, l'hybride, en fait, puisque les enseignants seront toujours devant les élèves qui sont vaccinés.
Ah, c'est toute la complexité de la. Enfin, c'est toute la différence entre la théorie et la pratique. Parce qu'on nous dit que potentiellement un enseignant pourrait filmer son cours, filmer pendant le cours, le transmettre, j'allais dire en direct, sur une chaîne, un réseau social, comme on les utilise, YouTube ou compagnie. Oui, alors encore faudrait-il que la technique suive. Ce qui est loin d'être le cas dans tous les établissements scolaires. Certains sont fibrés, d'autres pas du tout.
Ouais,
voilà. Et puis, encore faut-il que l'enseignant accepte que son image soit diffusée. Ce qui est encore un autre problème. Alors, si les deux conditions sont réunies, on peut l'imaginer. Il faudrait pas qu'il y ait dans n'importe quel établissement, y compris celui qui a le meilleur réseau Internet, il ne faudrait pas qu'il y ait 10 classes qui soient concernées en même temps, parce que si vous faites 10 flux vidéo directs, autant vous dire que ça ne tiendra pas.
La difficulté, je la comprends, mais je suis un peu étonné, Guylaine David, qu'on ne sache pas comment on fait, en fait, désormais, puisqu'on sait que ça peut se produire, ça s'appelle protocole 2, donc de fait, il peut y avoir un certain nombre d'élèves qui disparaissent des classes. Comment se fait-il que, la veille de la rentrée, on ne puisse pas dire aux parents, ne vous inquiétez pas, voilà exactement comment ça va se passer si d'aventure votre enfant est renvoyé à la maison.
Effectivement, c'est compliqué parce que il y a le protocole qui est écrit, il y a les règles qui sont édictées, puis après il y a la mise en œuvre sur le terrain et effectivement c'est pas toujours facile. Alors dans le premier degré, le problème de la fermeture de classe d'une semaine va être aussi compliqué à gérer avec les groupes parce que quand on a une classe de maternelle ou quand on a une classe d'élémentaire, l'enseignement à distance c'est très compliqué. Mmh. C'est pas facile à mettre en œuvre parce qu'on n'a pas les enfants sous la main, parce que les enfants n'ont pas tous les mêmes aides à la maison et qu'on n'a pas forcément le lien avec le système numérique qui permet d'aider les enfants. Et puis après, ça fait effectivement 18 mois qu'on a cette crise. On est passé par des confinements, par de l'enseignement à distance. Oui. Mais sur le terrain, il n'y a pas eu beaucoup de formation là-dessus. On n'a pas été formés. On a le problème technique aussi. On n'est pas tous bien équipés, à la fois du côté des enseignants, mais également des familles. Et on sait qu'en plus, ça va créer des inégalités, l'enseignement à distance.
Mais il y a eu des progrès quand même, non, qui ont été faits, justement, parce que, hélas, d'un confinement à l'autre, on a appris au fur et à mesure, ou pas. Si d'aventure il fallait faire déménager une classe, on sait mieux faire, rassurez-moi Didier Georges ou vous aussi Guylaine David.
Oui, techniquement, tout le monde a progressé. Les établissements scolaires ont progressé dans leur infrastructure, y compris numérique, et puis dans l'organisation de cet enseignement à distance. Les enseignants, par la force des choses, dès mars 2020 se sont auto-formés, parce c'était, enfin, faut se rappeler du couperet qui est tombé en mars 2020, où d'un seul coup, le lundi, il fallait mettre tout l'enseignement à distance en œuvre. Mmh. D'ailleurs, les réseaux, les tuyaux Internet des différents organismes qui pouvaient nous accompagner ont tous cédé. Hein. C'est la preuve que les enseignants l'ont fait et que les élèves se sont connectés aussi. Mais oui, bien sûr, on a progressé. Maintenant, il y a toujours des petites fissures, des petites failles dans tout le système. Le protocole, il prévoit plein de choses, mais en l'occurrence, comme votre auditeur le soulignait, il y a la question des sixièmes, elle est prégnante, par exemple. Et on en est tous particulièrement inquiets. Pour les autres niveaux de classe, au collège et au lycée, de toute façon, on sait déjà qu'on a 58%, peut-être 60% aujourd'hui, d'élèves qui sont dans un processus vaccinal. Mmh. Et puis, il y a tous ceux qui feront, alors qui ne seront pas qu'à contact. C'est-à-dire que, au-delà de cette statistique de 60%, si un élève n'est pas qu'à contact, il n'est pas mis en protection à la maison.
Et d'ailleurs, tiens, attends, je vous tiens là-dessus. Une dose, on n'est qu'à contact. Il faut avoir le schéma vaccinal complet.
Il faut avoir le schéma vaccinal complet, vous avez raison.
Ok. J'ai une question qui me vient, un cas d'école là aussi. Est-ce que le prof peut potentiellement être qu'à contact? Je pense surtout aux enseignants dans les petites classes, en fait. Est-ce qu'on peut être qu'à contact et donc auquel cas comment ça se passe si effectivement l'un des gamins petits, on découvre qu'il est contaminé?
Alors, dans le protocole, et y compris l'année dernière, à partir du moment où un enfant était Covid dans la classe, enfin, était détecté positif, l'adulte n'était pas qu'à contact. Donc dans le protocole, l'adulte est suffisamment éloigné, espacé, ce qui peut paraître assez...
dans les toutes petites classes, assez paradoxal pour tout
c'est
dire.
C'est paradoxal, même avec 30
Après,
élèves de
non,
maternelle
mais dans les toutes petites
qui sont
classes,
pas masqués. Enfin voilà, on est dans une difficulté de définition du cas contact. Bon, c'est vrai que cette année, on a beaucoup plus d'enseignants on a des enseignants qui sont très majoritairement vaccinés, donc ils vont pas être dans cette situation.
87% des enseignants ont reçu une dose, hein, c'est ce que disent les chiffres, et 78% de doses. Donc voilà.
Oui, on peut dire que c'est une population qui est très bien vaccinée parce qu'on avait l'année dernière une volonté de la part des enseignants de se faire vacciner parce qu'on se sentait certainement pas très en sécurité dans nos écoles. Donc là, la question va moins se poser pour les enseignants. Par contre, la question, en tout cas pour les moins de 12 ans qui ne pourront pas être vaccinés, la question de la protection de nos élèves à l'intérieur des écoles va être très problématique parce qu'il faut pouvoir protéger et éviter la circulation du virus dans nos écoles.
Est-ce que ça vous inquiète quand même, Didier Georges, chez les directeurs d'école? On sait bien, on l'a lu, on l'a tous entendu, que le risque, c'est effectivement une flambée, notamment dans cette population des gens plus jeunes. On dit que les contaminations de 0 à 19 ans seront 5 fois supérieures aux autres. Donc, est-ce que d'emblée, ça vous inquiète? Est-ce que d'emblée, on se dit, on va forcément devoir gérer ça? Ce sera forcément une année ou on va dire un premier trimestre beaucoup plus hybride que le démarrage de demain?
Alors, c'est pas du tout ce qu'on ressent. Mmh. En tout cas aujourd'hui, puisqu'on a accueilli nos enseignants aujourd'hui, pour tous sur le territoire national, c'est pas ce qu'on ressent. On sent pas une inquiétude particulière.
Mmh. On sent une envie peut-être
plutôt
de voir les
plaisir
gamins,
de retrouver les enfants physiquement. Mmh. En jauge pleine pour le second degré évidemment. Et c'est, ça n'a pas été du tout l'objet des conversations de la matinée. Alors après, il y a des sujets, hein. Il y a des points épineux quand même avec les salles de professeurs qui se posent, en particulier sur l'obligation vaccinale, le pass sanitaire,
etc. Viendra, ouais.
Le port du masque, il y a des litiges selon les régions, selon les préfets, les décisions qui seront prises par les préfets, en particulier en extérieur, puisque le protocole de niveau 2 ne prévoit pas le port du masque dans les zones ouvertes, extérieures.
Exactement, mais intérieures, oui.
Mais la foire aux questions va nous dire que les préfets peuvent localement, décider que le masque sera quand
en
même
fonction
obligatoire
du taux d'incidence, ce sera une décision
c'est
du
ça,
préfet.
En fonction des données sanitaires du moment et du lieu. Donc, il y a quand même quelques inquiétudes. Et évidemment, on se prépare, et d'ailleurs le ministre l'a souhaité, on se prépare à mettre en place le degré au-dessus, le niveau 3 de ce protocole, parce qu'on ne sait pas comment les semaines qui viennent vont faire évoluer l'épidémie en milieu scolaire.
Autour du masque, justement, cette question qui vient de Marc. Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Je vous remercie de prendre ma question, enfin de ma remarque. Je voudrais simplement rappeler une chose extrêmement simple, c'est que le port du masque en milieu scolaire a un coût. Et il a un coût en matière d'efficacité pédagogique. Et donc, les mesures qui sont prises, qui sont des mesures qui visent à renforcer la sécurité, eh bien, ce sont des mesures qui sont, quelque part, dont on paiera le prix. Voilà. En termes de dysfonctionnement scolaire, le masque a un coût considérable. Parce qu'une grande partie de notre travail, c'est d'être en relation avec les élèves. Et le visage des élèves, comme le visage de l'enseignant, eh bien, participe en grande partie à cette mise en relation ou cet état de la relation avec les élèves. Et donc, le visage, c'est vraiment, le masque, c'est vraiment un handicap pour enseigner. Et je pense qu'il faut pas trop confier les rênes aux médecins parce que, à un moment donné, voilà, on finit par prendre des décisions qui sont excessives. Voilà.
Parce que vous, Marc, vous dites...
Il est temps d'arrêter cette histoire de masque.
Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Vous dites, même si on n'en a pas fini avec l'épidémie, il faudrait enlever les masques, ceux des enseignants et ceux des élèves, en fait.
On peut pas tout avoir. Voilà. Si on attend que les choses soient complètement terminées, on risque d'attendre très longtemps. Et qui va finalement prendre la décision de lever la contrainte? Toutes les décisions qui sont prises pour renforcer la sécurité, on fait jamais marche arrière. Donc, à un moment donné, il faut accepter le risque et laisser fonctionner les gens. Voilà.
Merci.
On vient de décider dans mon département qu'on portera le masque en extérieur, mais ça tient pas debout de porter le masque en extérieur.
Alors, ça, pour le coup, c'est une décision qui vient pas de l'éducation nationale, mais qui vient effectivement du dessus. Et donc, forcément, les écoles sont, ils sont aussi, il n'est pas le seul, Marc, hein, parmi les enseignants, Guylaine David, à dire, nous, on peut pas faire classe. C'est compliqué de faire classe avec un masque. On a entendu ce matin encore chez Jean-Michel Blanquer des enseignants qui disaient, les masques transparents, on aurait aimé les avoir. Malheureusement, on ne les a pas eus.
C'est vrai, c'est compliqué de travailler avec un masque, c'est compliqué pour les enfants, on sait qu'il y a des difficultés d'apprentissage, on parlait ce matin, Jean-Michel Blanquer a été interrogé sur cette question-là par des enseignants de maternelle, on nous avait annoncé des masques inclusifs, notamment pour l'apprentissage de la lecture au CP, on les a jamais vus l'année dernière, on les a pas vus non plus dans des structures pour enfants avec des difficultés, donc là c'est vrai que l'éducation nationale aurait pu prévoir des masques inclusifs pour tous. Par contre, moi je pense qu'il faut faire très attention. En tout cas, à l'école maternelle et élémentaire, sans protection vaccinale, le masque reste quand même un élément, un geste barrière qu'il ne faut pas retirer, hein, y compris dans les zones où il y a une circulation du virus très intense et avec les cours de récréation. On sait que c'est un élément qui peut faire barrière. Donc il faut, enfin, en tout cas, le risque là est important, surtout avec le variant Delta, qu'on sait qu'il est beaucoup plus contaminant.
Didier Georges, moi ce qui m'intrigue, c'est la cantine dans ce protocole 2. On a beaucoup dit au cours des premiers, deuxième et troisième confinements que l'un des vecteurs de transmission les plus importants, c'était vraiment à table, c'était les repas et les enfants à table en plus s'en donnent à cœur joie et on ne peut pas les blâmer. Comment ça se passe à la cantine alors?
Chaque établissement, en fonction de son contexte local, de sa structure, de son architecture, du nombre de tables, du nombre d'enfants, des flux, va essayer encore de prendre un certain nombre de mesures. On le fait depuis le retour des élèves mai-juin 2020, et on l'a fait, on va le refaire, y compris si le protocole ne l'impose pas. Mm-hmm. C'est-à-dire que globalement, là, on est tous en train de reprendre des bonnes habitudes.
Vous gardez les tables en plein conf,
l'idée, c'est le contact tracing, en fait. Ouais. La cantine, ça reste le point faible, de toute façon, des établissements scolaires, qu'on soit dans le premier ou dans le second degré. C'est une évidence, c'est sans doute là qu'on prend le plus de risques. Ce qui est fondamental aujourd'hui encore, dans la mesure où c'est possible de le faire techniquement, c'est de pouvoir faire le contact tracing rapidement. Alors pour vos auditeurs, c'est identifier très vite les cas contacts qui auraient été impactés par un élève positif. Et alors il y a plein de solutions. Maintenant, il y a des mesures de protection physique. On est en train de pas mal d'investir. Alors pour ceux qui ont... Encore une fois, il y a aussi des moyens financiers qui n'ont pas fondamentalement augmenté. Malgré déjà 18 mois d'épidémie, et on aurait pu imaginer une petite dotation, par exemple. Je vous donne un exemple concret qui me touche personnellement. Ce matin, j'ai commandé en urgence des parois transparentes qu'on met sur les tables pour que chaque élève ait son espace et pour que éventuellement les postillons ou tout ce qui peut n'atteignent pas l'autre.
Oui, je veux bien, ouais.
Et on l'a fait. Alors, on a commandé la semaine dernière pour être livré si possible dès lundi, mais... voilà, on fait ça sur nos fonds propres. On fait ça, encore une fois, avec un peu les moyens qui sont les nôtres, quand on peut les dégager, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Pareil pour ce qu'on appelle les purificateurs. Où est-ce que vous en êtes de ce débat sur les purificateurs? On a l'impression aussi, là, que c'est sur des fonds propres que ça se passe, c'est des initiatives de certains chefs d'établissement, ou etc. Enfin, on ne sait pas très bien comment ça se met en place. D'abord, est-ce que quelqu'un vous a dit si, oui ou non, c'était d'une efficacité redoutable? Et surtout, lesquels? Parce que c'est pas tant est-ce que c'est efficace, c'est surtout lesquels le sont. Est-ce que là, vous savez un peu plus, ou est-ce que vous y allez tous au doigt mouillé, pardon de le dire comme ça, Guylaine David.
Là-dessus, sur les purificateurs et les capteurs de CO2, depuis très longtemps, les scientifiques ont alerté et ont donné des informations là-dessus. On sait que mesurer le taux de CO2 dans une classe pour voir la circulation et la qualité de l'air et donc pouvoir ouvrir, mais parfois on ne peut pas ouvrir les fenêtres parce qu'elles ne s'ouvrent pas forcément de façon correcte. On ne peut pas faire circuler l'air. Donc les purificateurs sont là aussi pour faire circuler l'air. Mais pour avoir un air meilleur, mais on sait que là-dessus, il y a eu un consensus sur les capteurs de CO2. C'est un indicateur et nous, on demande depuis très longtemps, depuis un an, à ce que l'éducation nationale aide les municipalités, puisque nous, on dépend, les écoles dépendent des communes, aide les communes à acheter des capteurs de CO2 dans toutes les classes pour avoir cette
mesure. À choisir, vaut mieux un purificateur qu'un capteur, non? Parce que une fois qu'on a constaté qu'il y avait trop de... que le taux de CO2 était... Parce qu'un capteur, en gros, quand c'est une espèce d'alerte qui dit attention, ouvrez les fenêtres.
Bon, on ouvre les fenêtres.
Bon, voilà. Si on ouvre les fenêtres une fois toutes les 20 minutes, on n'a pas forcément besoin du capteur. En revanche, le purificateur.
Mais parce qu'on a parfois des établissements où on ne peut pas ouvrir les fenêtres et l'air ne peut pas circuler. Il n'y a pas de portes qui permettent de faire circuler l'air. On ne peut pas laisser tout ouvert. On a des fenêtres qui s'ouvrent en oscillo-battant, des bâtiments qui ne sont pas aux normes, les fenêtres ne peuvent pas s'ouvrir. Mm-hmm. Donc là, le purificateur a une efficacité. Et les scientifiques le disent. On a travaillé beaucoup avec un collectif qui s'appelle Du Côté de la Science, où il y a beaucoup de scientifiques.
On les voit beaucoup passer, mais on les voit plus passer du côté des réseaux sociaux, visiblement. Donc,
Et en fait, effectivement, eux prônent depuis très longtemps ces capteurs de CO2 et ces purificateurs d'air. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Il y a vraiment une efficacité. Beaucoup de pays européens s'en sont dotés. Là, il faut maintenant que le gouvernement aide les communes. On a des alertes aussi de maires qui demandent à être aidés financièrement pour pouvoir équiper leur école, parce que il y a un coût financier, c'est sûr.
Il y a une demande de la part des chefs d'établissement, une inquiétude, une interrogation autour de ces ustensiles, j'allais dire, ou pas?
Alors, oui, tout ce qui peut nous aider, de toute façon, à lutter contre l'épidémie. On est preneurs. Faut quand même relativiser, c'est-à-dire qu'un l'appareil qui mesure le taux de CO2 et la saturation de l'air, le capteur de CO2, ça coûte pas très cher. Mais à l'échelle d'un établissement scolaire, 80, 90, 100 salles dans un lycée. Un gros lycée, 120 salles des fois. Voilà, ça peut tout de suite faire un coût important. Les purificateurs d'air sont beaucoup plus coûteux.
ça coûte beaucoup plus cher. Et puis surtout, c'est très contraint. Puis c'est gros, enfin, faut l'installer. On vient de m'en installer 5 dans mon établissement D'accord. scolaire, puisque c'est un lycée hôtelier, donc en plus on va accueillir du public bientôt. C'est de la grosse machinerie. Et puis ça a un coût considérable. Alors la région Île-de-France.
Coût considérable. Donnez-moi le prix d'un.
Alors je ne sais pas, parce que c'est la région qui l'a qui l'a installé. La région Île-de-France, elle, c'est une région qui a de l'argent. Elle l'a pu la déployer dans un certain nombre de lycées. Des purificateurs d'air. Les départements sont déjà moins à l'aise, et puis un département rural ne va pas être à l'aise du tout sur cette question. Ouais. Donc il y a une forme d'inéquité. Alors face à la science, hein, parce que finalement c'est la science là, qui s'exprime, et tout le monde ne pourra pas être logé à la même enseigne, si vous me permettez cette expression, parce que les moyens financiers des collectivités territoriales sont très différents, et les mairies ça peut être encore pire. Donc
comment vous avez choisi, vous, les 5 salles dans lesquelles vous allez mettre vos purificateurs, d'ailleurs, au nom de quels critères, finalement, vous avez choisi ces 5-là, plus que d'autres?
Alors, le taux de fréquentation.
D'accord, ok.
Et puis la volumétrie, le nombre d'élèves qui sont de passage, et puis la taille des classes qui y sont. Donc, puis en plus, les salles de restauration, puisqu'elles vont accueillir du public en masse.
Manon, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Manon.
Voilà, je vous appelle parce que on a fait la pré-rentrée aujourd'hui. On s'est posé 2 questions, notamment sans réponse. La première, c'est de savoir si un cas est positif dans une classe, donc il a potentiellement transmis le virus à d'autres élèves de la classe. Même s'ils sont vaccinés, ils vont rester dans la classe. Si on a des parents qui sont contentieux, qui décident de tester leur enfant, cette classe va être fermée durant des semaines. Et on a les élèves qui sont sans passe sanitaire, sans vaccination, qui resteront à l'extérieur pendant des semaines. Donc, ça nous pose une question d'égalité à long terme. Et la deuxième question, c'est pour les sorties scolaires. On prend tout le monde, on choisit. Est-ce qu'on va dire, ben non, c'est pas possible de faire la sortie scolaire parce qu'il y a 2-3 élèves dans la classe qui sont vaccinés, on risque de stigmatiser ces élèves. Est-ce que c'est la mort des sorties scolaires parce qu'il n'y aura pas forcément des créneaux spécialement pour les scolaires? Voilà.
Alors, sur les sorties scolaires, on va pouvoir vous répondre. J'aimerais bien, pardon Manon, si vous pouviez clarifier, parce que je comprends bien que si effectivement un élève est contaminé, il quitte la classe. Je comprends pas pourquoi ce serait infini, en fait, et que ça durerait des semaines.
Parce que s'il transmet à un autre élève, il a transmis à un autre élève le Covid, que cet élève présente des symptômes, on peut avoir des parents qui sont consciencieux et qui vont tester l'enfant par eux-mêmes. Donc on aura un nouveau cas positif, donc la classe sera à nouveau fermée pendant une semaine.
D'accord.
C'est pas très clair en fait à ce sujet-là.
Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Alors il faut que les enfants, on est en train de parler de petites classes, mais auquel cas si on est dans les toutes petites classes, on va essayer de régler ça comme ça, si on est dans les toutes petites classes, de toute façon la classe ferme entièrement puisque les enfants ont moins de 12 ans. Oui. Si on est dans des plus de 12 ans, on est d'accord que ce sont uniquement les non-vaccinés qui partent. Là où Manon a raison, c'est que si on...
Les non-vaccinés, cas contact,
absolument, bien sûr.
Donc il faut une multiplicité de facteurs pour que l'élève soit vraiment mis à la maison pendant 7 jours. Et un élève qui serait mis en mesure de protection pendant 7 jours, si d'autres camarades pendant ce temps développer la maladie, cet enfant-là ne peut... Enfin, l'enfant...
Il n'est plus qu'à contact, puisque la maladie a été développée à l'extérieur.
Donc il va revenir de toute façon au bout de 7 jours. Alors, votre auditrice a raison. C'est-à-dire que si l'épidémie se prolonge au long cours dans une même division, ça peut quand même créer plusieurs fois 7 jours, mais pas infiniment.
Et voilà. Alors Manon a raison sur les sorties scolaires. Qu'est-ce qui se passe pour les sorties scolaires? Partons du principe qu'on est dans une école à plus de 12 ans, donc il y a des élèves vaccinés, d'autres qui ne sont pas vaccinés. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans les sorties scolaires et surtout celles qui vont nécessiter passe sanitaire?
Alors on avait demandé au ministre et au ministre de la Santé aussi un régime dérogatoire. C'était une revendication syndicale du SNPDEN pour dire est-ce que sur les sorties scolaires, les élèves qu'on est censé emmener au musée, au cinéma, au théâtre, peu importe, pourraient être exonérés de ce pass sanitaire, puisque globalement l'idée c'est d'emmener toute une classe. Notre retour étant aussi, ça fait 18 mois que ces élèves-là ne vont pas au musée, au cinéma et au théâtre, et quand même la culture c'est fondamental dans les apprentissages et dans l'acquisition des compétences des élèves. On n'a pour l'instant pas été entendu, mais le sujet je crois est sur la table encore du ministre Blanquer. Ce qu'on a fait, je pense qu'on est un certain nombre à avoir fait preuve d'un petit peu de bon sens, c'est dans un premier temps essayer de privilégier, d'organiser des sorties pédagogiques parce qu'on en a tous très envie, mais de le faire dans des lieux qui, simultanément, à cet instant-là, n'accueillent pas du public. Maintenant, c'est vrai que la solution la plus simple serait qu'on puisse bénéficier d'un régime dérogatoire. Mmh. On verra si on obtient satisfaction ou pas.
En l'état, il faudra de toute façon tester, si une classe veut quand même aller faire sa sortie, ce qu'elle a largement le droit de faire, il faudra tester les enfants qui ne sont pas vaccinés. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre choix, parce que ça peut être salivaire, c'est-à-dire pas un test antigénique qui est plus invasif. Est-ce qu'au moins ça peut être plus facilement fait en cas de sortie avec un test salivaire? Alors moi, je ne veux pas vous piéger, je suis désolée, mais je me dis...
Non, moi, sur la question des sorties scolaires dans le premier degré, nous, les enfants n'étant pas vaccinés, il n'y a pas cette question-là. C'est-à-dire que les sorties seront autorisées et donc il n'y a pas la question du pass sanitaire. Donc on n'est pas tellement concerné là-dessus. Par contre, je vais vous laisser répondre sur la question...
Alors, imaginez, on est en classe de 3e, donc certains sont vaccinés, d'autres ne le sont pas. Est-ce qu'on on inflige, parce que c'est quand même très pénible, un vrai test, j'allais dire comme ça, type antigénique aux enfants qui ne sont pas vaccinés, ou est-ce que le salivaire peut suffire?
Alors, je peux éventuellement me tromper et dire une bêtise,
allez-y.
Mais moi, des tests salivaires, j'en ai pas vu.
D'accord.
Voilà. Dans le second degré, j'en ai pas vu. Je croule sous les autotests avec les cotons-tiges, ceux qu'on doit enfiler dans le nez. Ouais. Je ne sais même plus quoi en faire, puisqu'ils ont été envoyés un peu tard dans les établissements au printemps, donc on s'en est très peu servi.
Bah, gardez-les. Hein.
Donc j'en ai, pas de souci, mais salivaire, j'en ai pas. Et je pense en particulier, encore une fois, à nos petits sixièmes, par exemple, il faudra les tester avec le coton-tige, hein, si c'est ainsi qu'il faut le faire.
Alors, il y a eu autre chose qui m'intrigue. On est en classe de 3e, pareil. Il y a eu un cas contact. Enfin, il y a eu une personne, un enfant qui est positif. Donc, vous allez prévenir les parents pour dire attention, il y a un cas positif. Est-ce qu'on a le droit de demander aux parents, votre enfant est-il vacciné ou pas? Est-ce que vous avez, chef d'établissement, cette information? On sait que c'est un tel qui est vacciné, donc ceux-là, ils peuvent ne pas bouger, les autres bougent. Comment ça se passe dans ces cas-là? Ou est-ce que c'est du déclaratif, en fait, les parents qui disent oui ou non en fonction de l'état vaccinal de leurs enfants?
Bien, ce sera du déclaratif. Mmh. Voilà. Donc on va faire confiance aux familles. De toute façon, c'est notre positionnement de départ. On fait confiance aux familles. Donc voilà, si l'enfant est cas contact, la famille nous dit mais il n'y a pas de souci, il est vacciné. Ils ne sont pas obligés de nous apporter la preuve matérielle de la vaccination, puisque le pass sanitaire n'est pas obligatoire, je vous rappelle. Donc on va être obligé de faire confiance. Mais on le fait, on va le faire. De toute façon, là, on n'imagine pas, sauf, je dirais des situations tout à fait exceptionnelles, on n'imagine pas qu'un parent nous explique que son enfant est vacciné s'il ne l'est pas. Je veux dire, faudrait vraiment... ou alors c'est qu'on a, on a touché le fond, pardon.
Isabelle est avec nous. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien, moi j'aimerais qu'on m'explique pourquoi l'obligation vaccinale n'est pas faite pour l'éducation nationale. Parce que s'il y a un instituteur ou un professeur qui est non vacciné, qui a contact, comment ça se passe? La classe s'arrête?
Eh bien, on va leur poser cette question, Isabelle. D'abord, en deux parties, est-ce que vous étiez favorable, vous par exemple, Guylaine David, au SNUIPPFSU, à l'obligation vaccinale pour les enseignants ou pas? Est-ce qu'il y a eu des voix pour dire il faut une obligation vaccinale?
La question de l'obligation vaccinale, elle est très complexe parce que effectivement, elle engage beaucoup les personnels. Mais on n'est pas favorable à une obligation vaccinale. On est favorable à inciter les collègues à se faire vacciner. On est persuadé là que les chiffres sont à peu près ceux de la population normale, voire même mieux, parce que les enseignants ont demandé très tôt l'année dernière à être vaccinés.
On s'en souvient.
C'était
très
une
bien.
Demande de priorité vaccinale.
Ils souhaitaient même être prioritaires dans les vaccinations.
Ils voulaient être prioritaires. Donc, mais parfois, contraindre à se vacciner, c'est contre-productif. Il vaut mieux expliquer. On a toujours besoin d'expliquer aux gens de un certain nombre de choses. On sait que la vaccination est une question complexe, mais donc on n'est pas on sait qu'on va pouvoir convaincre. Donc il faut pouvoir expliquer et parfois c'est contre-productif d'aller sur une obligation. Donc on n'y est pas favorable.
Est-ce que parce qu'on sait dans la population générale là où le bât blesse dans les pourcentages, on sait quelles sont les populations qu'il faut cibler qui ne sont pas encore vaccinés pour des raisons d'éloignement ou des raisons de praticité, etc. Oui. Est-ce qu'on sait, dans l'éducation nationale, alors je le disais, les chiffres sont hauts, 78% de doses, pardon, 78% de doses. Voilà. Donc est-ce qu'on sait qui il manque, en fait, s'il y a des profils de ceux qui manquent?
C'est difficile parce que là on se base sur un sondage, un sondage IFOP. Il n'y a pas eu de déclaration, on ne nous a pas demandé, nous on enseignants, est-ce qu'on est vacciné ou est-ce qu'on n'est pas vacciné. Donc on n'a pas ce taux-là de vaccination et qui est plus vacciné que d'autres. Mais bon, c'est vrai que la question est importante de l'auditrice par rapport aux élèves.
Bien sûr.
Mais on sait aussi que la protection, elle est aussi au niveau des élèves. C'est-à-dire qu'on est un peu plus serein, même s'il y a beaucoup d'inquiétudes dans cette rentrée, on est un peu plus serein parce qu'on est vacciné de façon majoritaire. Donc pour sa propre santé, les enseignants sont peut-être plus sereins. Par contre, ils le sont moins pour les enfants parce qu'on sait que ça peut être propagé rapidement. Le virus peut se propager, va pouvoir se propager rapidement si on ne prend pas des mesures très strictes. Là, ce que d'ailleurs le protocole ne le permet pas, mais il va falloir engager d'autres mesures dans ce protocole, le faire évoluer pour qu'il soit plus protecteur pour nos élèves.
À choisir, alors le protocole 3, c'est hybride, donc j'imagine que c'est pas ce que vous souhaitiez.
C'était pas ce qu'on souhaitait.
Hybride, voilà,
que,
c'était voilà. Un 2 bis en fait. Voilà, vous vouliez une sorte de 2 bis.
On aurait bien voulu mélanger un peu le 3 et le 2, notamment sur la cantine, hein, et un peu plus obliger les collectivités locales à mettre de la distanciation, parce que là on le fait tout est fait dans la mesure du possible, on va distancier les élèves. Dans la mesure du possible, on va mettre moins d'élèves dans la cantine. Mais il y a des municipalités qui n'ont pas trop le choix, si ce n'est que d'embaucher du personnel pour multiplier les services de restauration. Donc là, on aurait bien voulu mettre un petit peu du protocole 3 dans le 2, ce qui ne nous a pas été accordé.
Derrière la question de notre auditrice, il y avait, on parlait tout à l'heure du cas d'école, pardon pour le mauvais jeu de mots, est-ce qu'un professeur peut être cas contact des élèves si un est contaminé? Que dit l'inverse? Si un professeur qui n'est pas vacciné découvre qu'il est positif, est-ce qu'on considère que personne dans sa classe n'est cas contact puisque les distances ont été respectées? Donc on essaye de trouver un nouveau prof, on ne ferme pas la classe pour autant, Didier Georges?
Oui, c'est ça. En fait, tout est une question de est-ce qu'on peut établir ou pas que la distance a été respectée, la distanciation a été respectée, le port du masque a bien été respecté. Est-ce qu'à la demi-pension, on a des enseignants qui mangent avec les élèves, ça arrive. Dans le premier degré, peut être un truc assez régulier. Donc, est-ce que cet enseignant qui serait positif au Covid, lui, a déjeuné avec des élèves trop près, donc sans mesure de protection? Sorti de cela, on considère, je pense, en tout cas dans le second degré, c'est peut-être un petit peu plus facile, encore une fois, parce que la distance, elle est plus facile à respecter, et puis on a donné des consignes dans ce sens-là. Et on a souvent organisé nos salles aussi, quand on le pouvait, évidemment, de manière à ce que le premier rang d'élèves soit quand même à plus de 2 mètres du bureau du professeur. Alors, est-ce que c'est bien respecté ou pas? En tout cas, les mesures sont prises. Maintenant, effectivement, on n'est pas à l'abri qu'un enseignant soit lui-même positif. Enfin, il y en aura encore. Avec 80% de taux de vaccination, il y en aura peut-être encore, malheureusement. Et si c'est le cas, on fera comme on l'a eu fait à d'autres périodes, c'est-à-dire que soit il est en arrêt maladie, et auquel cas il faudra trouver un remplaçant, soit il est en autorisation spéciale d'absence, c'est encore une autre statut, soit il peut peut-être se mettre à domicile, se protéger et enseigner en visioconférence. Après, il y a de la logistique derrière. Hein. Ouais. Sur le premier degré, ça marche pas, que je dis. Hein,
bien sûr,
être clair.
Parce qu'ils sont trop petits, effectivement.
Oui, ça marche pas. Ça marche que dans le second degré.
Justement, puisqu'on parlait d'absence de professeurs, voici Marie-Pierre. Bonsoir Marie-Pierre.
Oui, bonsoir.
Allez-y Marie-Pierre.
Merci de prendre mon appel. Justement, alors en cas de professeur absent dans le premier degré, on nous dit de ne pas faire de brassage des élèves, mais en même temps on nous dit que en cas de professeur absent, les élèves seront répartis dans les autres classes. Est-ce que vous avez des précisions à nous donner ou si c'est bien ça la directive?
Merci beaucoup Marie-Pierre, elle a tellement raison Marie-Pierre, il y a ce paradoxe terrible, on ne brasse pas, mais si un prof n'est pas là, on est bien obligé de brasser.
Ça s'est posé l'année dernière à une période là juste avant les vacances anticipées où on avait énormément d'enseignants absents non remplacés parce qu'on a vraiment un problème de remplacement. Oui. Il y a eu des suppressions de postes de remplacement ces dernières années, puis il n'y a pas eu de création en conséquence là pour cette période, et donc on avait des absences d'enseignants non remplacés, les enfants étaient répartis sur les autres classes, on brassait les élèves. Le ministère avait décidé dans le dernier protocole en vigueur en fin d'année dernière, lorsque un enseignant était absent et non remplacé, la classe était fermée, les élèves étaient renvoyés chez eux. Ce n'est pas valable pour ce protocole et cette rentrée scolaire. Donc on va forcément avoir des questions de brassage. C'est là où le protocole, il n'est pas suffisamment strict, c'est qu'on va être obligé de brasser. On n'a pas le choix dans le premier degré. Si on ne renvoie pas les élèves chez eux, on est obligé de les accueillir dans les autres classes. Et on va brasser et on risque de contaminer les autres classes.
Je voyais réagir Didier Georges.
Non, ça confirme qu'un protocole 2,5 était plutôt une bonne idée. Ouais. Et je partage complètement l'avis de Guylaine David sur ce point. Il y avait des mesures ponctuelles dans certains domaines, la demi-pension, le cas de l'absence de l'enseignant, qui aurait peut-être nécessité, la mise en protection de toute une classe de temps en temps.
Au-delà de ce que dirait ou dira l'épidémie, est-ce qu'il y a une clause de revoyure, cependant, qui permettrait d'ajuster le protocole indépendamment des contaminations? S'il y a une vague de contamination, ça c'est autre chose. Et ça, c'est d'autres protocoles qui se mettent en place. Peut-être le 3, on n'en sait rien, puis on verra bien, avec un peu de chance, rien du tout. Mais sinon, il y a une clause de revoyure qui est prévue pour voir si ça fonctionne ou pas.
Enfin, en tant qu'organisation syndicale, on a des réunions tous les 15 jours à peu près avec le ministère. On espère qu'on pourra effectivement faire évoluer les choses. On espère qu'on ne fera pas évoluer les protocoles de la même façon que l'année dernière. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on demandera un protocole qui change pas trop, qui soit finalement assez strict, mais qui n'évolue pas trop. Parce que l'année dernière, la foire aux questions, elle a changé 39 fois. Il a fallu s'adapter. Donc, sur le terrain, il faut s'adapter à chaque fois qu'un protocole change. Mais en tout cas, là, l'idée, c'est quand même de faire évoluer les choses pour ne pas avoir la circulation du virus et d'intervenir rapidement. C'est sûr que la rentrée scolaire va bien se passer, là, demain. La semaine prochaine, les enseignants ont envie de partir, de retrouver leurs élèves, et les élèves ont envie de retrouver leurs camarades. Enfin, tout va bien se passer. Mais c'est dans 2, 3, 4 semaines. Comment sera l'épidémie? C'est là où il faudra revoir très certainement et avoir quelque chose de plus strict.
La vaccination sur place, si j'ose dire, avec des camions de vaccination, comme je dis, était plutôt encouragée. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a même une envie, une volonté, qu'elle soit du côté des établissements que du côté des parents d'ailleurs qui du coup peuvent faire vacciner leurs enfants si bien sûr ils le souhaitent?
Alors là on n'a pas vu les parents encore, enfin on n'a pas vu les élèves encore, donc c'est un peu compliqué pour moi de vous répondre sur l'état d'esprit peut-être des familles. En tout cas ce matin avec les enseignants, on a bien senti que la mesure de vaccination sur l'académie de Paris par exemple, alors chaque académie a géré sa propre organisation, il y en a qui ont fait de l'externalisation à proximité des établissements scolaires. Par exemple, à Paris, il y aura 117 établissements scolaires du second degré qui seront eux-mêmes centres de vaccination. Et on a même un peu anticipé, puisque là, il y a déjà des centres de vaccination externalisés qui proposent de commencer à vacciner les élèves volontaires dès la semaine prochaine, le temps que nous mettions en place dans nos établissements scolaires des centres de vaccination à l'interne, in situ. Voilà. On sent bien que la mesure est plutôt appréciée, parce que c'est aussi de cette manière qu'on arrivera à faire augmenter de manière spectaculaire, on l'espère tous, le taux de vaccination des élèves. Et à partir de là, de toute façon, je repense à votre auditrice tout à l'heure qui parlait du masque, votre auditeur qui parlait du masque, qui était fondamentalement quelque chose qui gêne la pédagogie, et il a raison. C'est moins vrai chez les plus grands, mais chez les tout petits, c'est fondamental. Et aujourd'hui, on ne sortira de cette contrainte du masque que si le taux de vaccination est très élevé.
Mais du coup, j'ai une question subsidiaire qui ressemble à celle que je vous posais tout à l'heure sur le côté déclaratif. Est-ce que ça veut dire que dans une classe, pour savoir combien il faudrait emmener d'enfants à la vaccination ou combien il faudrait de doses si d'aventure vous faites venir la vaccination à vous, il faudra bien un moment demander aux élèves qui est vacciné, qui ne l'est pas et qui est, j'en sais rien, dans le cahier de correspondance, un truc inscrit qui dit oui, j'autorise mon enfant à se faire vacciner. Comment ça peut se passer, ça, pratiquement?
Bon, je pense que la plupart de mes collègues ont fait des formulaires. Ils ont posé la question aux familles. Alors, ils auront le droit de répondre. Ils auront le droit de ne pas répondre. Ils auront le droit d'attester sur l'honneur. Ils auront le droit de produire le pass sanitaire, si le cas échéant. Et à partir de là, on aura une photographie à un instant T, qui sera quand même, je pense, assez fiable. Enfin, je veux dire, encore une fois, je reviens sur l'idée qu'il faut faire confiance aux familles et qu'il n'y a pas de raison que les gens nous mentent. Donc, on aura une photographie fiable et on saura après quelle volumétrie à mettre en œuvre dans les centres de vaccination in situ ou externalisés.
Allez, on saura aussi dans quelques jours ou quelques semaines, vous le disiez, Guylaine David, effectivement, comment les choses se mettent en place. En attendant, bonne rentrée à tous. C'est un peu ça l'essentiel. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à tous pour vos nombreuses questions.